Je vous rappelle les petits changements des prochaines semaines, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque. Malheureusement, la semaine dernière, je n'en avais pas tout à fait fini avec l'incipit du deuxième paragraphe de Combray. Nous en sommes toujours là, que j'analysais l'autre fois. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Répétition donc très marquée et significative, et pourtant, je le disais, très peu commentée. C'est la première métaphore du roman, c'est la première mention de l'enfance dans cette phrase courte, étrange, carrée, et je disais matricielle. La semaine dernière, je l'ai donc commenté, surtout du point de vue de la joue et du fétichisme de la joue, mais non pas du côté de l'oreiller. Et c'est vers lui que je voudrais me tourner maintenant, de cette association et du contact avec l'oreiller, qui, me semble-t-il, est tout aussi important que la joue dans cette image. L'oreiller qui dispose lui-même de joues, sur lequel repose la joue, qui dispose de joues. On songe bien sûr aux plis de l'oreiller qui laissent leur marque sur les joues de l'enfant, qui impriment leur gaufrure sur les joues de l'enfant, et c'est un topos de la poésie sentimentale que celui-là, l'enfant et l'oreiller. L'oreiller rougit la joue des enfants. On trouverait cela dans beaucoup de poèmes du XIXe siècle. Mais cet oreiller, il est aussi du côté de la sensualité, qui bien sûr n'est pas absente du texte de Proust. C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants tord sur leurs oreillers les brins adolescents. Vers du crépuscule du matin de Baudelaire. Il y a donc les deux côtés de cet oreiller, le côté de l'enfance et le côté de la sensualité. Et voici le récit d'un voyage en train de deux femmes, dans un poème que Proust a connu. Elles se parlaient à voix basse, c'était comme un bruit de frisson, le bruit qu'on entend quand on passe près d'un nid le long d'un buisson. Et bientôt, elles se blottirent, leur front l'un vers l'autre penché, comme deux gouttes d'eau s'attirent dès que les bords se sont touchés. Puis, joue à joue, avec tendresse, elles se firent toutes deux un oreiller de leurs caresses, sous la lampe, au rayon laiteux. C'est un poème de Sully Prudhomme, intitulé « En voyage, dans les veines tendresses ». C'est un poème très proustien, avec ce babil des oiseaux le long du buisson. On trouvera un buisson bientôt dans Combray. C'est un poème sur la passante, hein, la jeune fille inconnue, aperçue dans un train, puis perdue à jamais. C'est donc le cinquième poème d'un recueil dont Proust cite souvent la première pièce, « Aux amis inconnus », à beaucoup d'amis. Il cite ce poème. Et c'est donc la mise en scène d'une mère et de sa fille endormies l'une contre l'autre. Ce glissement des joues du héros aux joues de l'oreiller, cet oreiller rebondi, moelleux, joufflu, plein, puis aux joues pleines de l'enfance. Bon, cette association de l'enfance et de l'oreiller, c'est, je disais, un symbole de sérénité. Autre image baudelairienne, Baudelaire dans son compte-rendu des Misérables de Victor Hugo en 1862, ici, par une liaison toute naturelle, nous sommes amenés à reconnaître une fois de plus avec quelle sûreté et aussi quelle légèreté de main ce peintre robuste, ce créateur de colosses, colore les joues de l'enfance. Ce thème des joues colorées de l'enfant. On allume les yeux, on décrit le geste pétulant et naïf. Quelques pistes pour prolonger, pour montrer cette insistance de l'association chez Proust, et puis en même temps ça va nous faire pénétrer un peu plus loin que le deuxième paragraphe dans cette recherche du temps perdu. C'est à propos de l'église de Saint-André-des-Champs, plus loin dans Combray, avec ses saints et ses patriarches de pierre, ces sculptures que j'évoquais la semaine passée, qui viennent d'Émile Malle, passage qui commence par cette phrase bien connue, que cette église était française, avec ses personnages locaux, parmi lesquels Théodore. Le héros reconnaît Théodore, le mauvais garçon de chez Camus, autre utilisation de chez que je commentais. Voilà le passage, et je m'intéresse à cette description de Théodore, qui est le mauvais garçon, mais le mauvais garçon tendre. Or, ce garçon qui passait avec raison pour si mauvais sujet était tellement rempli de l'âme qui avait décoré Saint-André-des-Champs, et notamment des sentiments de respect que Françoise trouvait dus au pauvre malade et à sa pauvre maîtresse, qu'il avait, pour soulever la tête de ma tante sur son oreiller, revoici un oreiller, la mine naïve et zélée des petits anges des bas-reliefs, s'empressant un cierge à la main autour de la Vierge défaillante, comme si les visages de pierre sculptée, grisâtres et nus, ainsi que sont les bois en hiver, n'étaient qu'un ensommeillement, qu'une réserve, prête à refleurir dans la vie en innombrables visages populaires, révérends et futés, comme celui de Théodore, enluminé de la rougeur d'une pomme mûre. Voilà un cliché qui est transformé dans ces « qu'est-ce qui peut être enluminé ?» de la rougeur d'une pomme mûre dans ce visage angélique, sinon les joues avec leurs pommettes. De nouveau, c'est un cliché que Proust retrouve ici, ces joues rouges comme une pomme ou comme une pomme d'api qui traîne dans toute la poésie du XIXe siècle et que l'on retrouverait chez Gautier, chez Hugo, bien sûr, chez Zola, chez Huysmans. Mais ici, le cliché est en quelque sorte remotivé. Et si vous lisez la suite, et vous avez bien confirmation de cette association, il est question non plus appliquée, mais à la pierre comme ces petits anges, mais détachés du porche, d'une stature plus qu'humaine, debout sur son socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide, une sainte avait les joues pleines. Le sein ferme. On peut retrouver l'association que j'évoquais la semaine passée entre ces joues et ce sein, et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crin, etc. Il y aurait beaucoup à dire donc sur cet oreiller des premières phrases de Combray comme symbole du bien-être, de la douceur du foyer, comme refuge contre le monde hostile. À la fois avec cet aspect donc d'innocence de l'enfant et de sensualité. Dans les cahiers de Brouillon, de Proust, d'où vient cet oreiller ? Il est appelé, pour la première fois, me semble-t-il, par les supplices auxquels est soumis le jeune héros, qui craignait que son grand-oncle, dans les brouillons, il y a ce grand-oncle qui est un ancien avatar de l'oncle Adolphe, son grand-oncle ou bien le curé ne lui tira les cheveux, ses boucles qui sont encore présentes dans le texte définitif. Le héros évoque encore ses boucles, en dormant, ça c'est le texte définitif, en dormant, c'est la deuxième page, toujours. En dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs enfantines comme celle de mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Revoici l'oreiller, cette fois associé à ses boucles. Protection contre le monde hostile incarné dans ce grand-oncle. Et plus loin, On est toujours dans les premières pages. Le thème est repris dans l'évocation des différentes chambres dont le narrateur se souvient en se réveillant la nuit. Chambre d'hiver où, quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit et un numéro des débats roses qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment. Ça, c'est donc le texte définitif. Et vous voyez l'association, les boucles fragiles et le nid que l'on fait avec les éléments du lit cimentés ensemble. On peut aussi insister sur le passage du « je » au « on » quand on est couché dans beaucoup de ces passages. Cette image, on le sait, cette image du nid protecteur, fait avec l'oreiller et quelques éléments, elle provient de L'Oiseau, le livre de Michelet de 1856. C'est un auteur dont Proust était familier, en particulier de ses livres sur la nature, hein, l'insecte et la mer. Les passages sur la méduse dans Sodome et Gomorre viennent de la mer. Et Michelet, c'est l'une des très belles pages de Michelet, donc je vous la montre, dans L'Oiseau, c'est une longue description du nid que je vous laisse lire, mais le passage qui inspire le plus directement Proust, c'est celui qui décrit l'outil. L'outil pour créer le nid, réellement, c'est le corps de l'oiseau lui-même dont il presse et serre les matériaux jusqu'à les rendre absolument dociles, les mêler, les assujettir à l'œuvre générale, comme l'enfant dans son lit fait ce nid protecteur. Et au-dedans, l'instrument qui imprime au nid la forme circulaire n'est encore autre que le corps de l'oiseau. C'est en se tournant constamment et refoulant le mur de tous côtés qu'il arrive à former ce cercle. Cette image donc, de l'oreiller comme nid créé par l'oiseau, elle était apparue très tôt dans les brouillons de ces passages, justement avec les boucles. Et c'est un récit de rêve, c'est un récit de rêve pour l'ouverture de Combray, c'est encore l'époque du Contre Sainte-Beuve, c'est un passage du cahier 5, justement avec ces boucles, un récit de rêve sous le coup de l'épouvante causée par mon grand-oncle, était causé par l'épouvante de m'être aperçu que mon grand-oncle, notre curé, arrivait à pas de loup derrière moi pour me tirer par mes boucles. C'est donc toujours ce thème, ce qui avait été la terreur et le supplice de mon enfance. Le nid et Michelet ne sont pas encore présents, ni l'oreiller, mais le passage se termine en évoquant cette nécessité de se protéger, manière de me protéger contre toute attaque possible d'un précepteur, maintenant c'est un précepteur, qui s'avançant pendant que je dormais, les boucles dont je sentais parfaitement alors le frôlement sur mes oreilles. Un précepteur qui s'avançait pendant que je dormais pour tirer, contre toute attaque possible, un précepteur qui viendrait tirer ses boucles. La boucle, oreille, oreiller, tout ça est là. Et suivant l'usage de Proust, puisque c'est comme ça qu'il travaille, il réécrit de multiples fois le même passage, sans choisir. Il réécrit aussitôt le passage dans ce même cahier 5. Et ici, on commence à trouver, avant de m'endormir, j'avais soin de me protéger, complètement la nuque avec un ciment composite fait de ma chemise, du drap et de l'oreiller. Voici la première apparition de cet oreiller et de ce ciment composite pour se protéger, ce ciment composite qui servira de refuge contre les tireurs de boucles, grand-oncle, curé ou précepteur. Puis, étape suivante, dans le cahier 1, le héros rêve que c'est le curé qui lui tire les cheveux, et avant de me rendormir, me rappelant bien que le curé était mort et que j'avais les cheveux courts, j'avais tout de même soin de me cimenter avec l'oreiller, la couverture, mon mouchoir et le mur, un nid protecteur. Voilà l'apparition du nid, cette fois. L'oreiller, le nid. Avant de rentrer dans ce monde misard où tout de même le curé vivait et j'avais des boucles. Autre nid qui apparaît à quelques pages de là, hein, ce thème du nid est maintenant apparu, dans une autre chambre, une chambre où je couchais à Bruxelles, et cette chambre était comme on y était couché comme dans un nid et libre comme dans un monde. C'est le bonheur, hein, à la fois la fermeture du nid et l'ouverture du monde. Vous voyez que le nid est apparu à partir de l'oreiller et que c'est ça qui conduit à Michelet, qui rappelle à l'écrivain Michelet, le conduit à relire l'oiseau, et puis dans cette page, les différentes chambres sont structurées comme les nids de Michelet dans son livre. Et c'est chose faite à l'étape suivante, dans le cahier 8, où on peut lire « Chambre un peu froide où on cache sa tête dans un nid qu'on fait avec les choses disparates, qu'on fait avec les choses les plus disparates, et de la même manière que les oiseaux, voici les oiseaux, qui les unissent ensemble en s'y appuyant indéfiniment, la technique décrite par Michelet, et en cimentant ensemble avec un coin d'oreiller, en s'y appuyant indéfiniment, avec un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit, le coin du mur et un numéro du petit temps. En dessous, on lisait, et la quatrième page du Figaro. Hein, toujours ce journal qui est là. Vous voyez que l'oreiller dans cette genèse est tout à fait aussi important que les joues sur lesquelles j'insistais la semaine passée, et qu'on touche encore à quelques topoi qui font de l'oreiller le nid de l'adulte, hein, cet oreiller rebondi de l'enfance, à la fois innocent et sensuel. Il y aurait sûrement une thèse à faire sur l'oreiller chez Proust, peut-être qu'elle est déjà faite d'ailleurs, je n'en sais rien, mais l'oreiller est assurément un objet important de cette fin du XIXe siècle et de ce début du XXe siècle. Et chaque fois que je vais au musée d'Orsay et que je revois ce tableau de Vuillard au lit, eh bien, je pense à Proust et à son oreiller. On peut donc, me semble-t-il, analyser cette configuration boucle, oreiller, nid, avec la sensualité des l'érotisme qui vont avec, comme l'atteste une remarque que je trouve à l'autre bout du roman. C'est après le départ d'Albertine, lors des spéculations du narrateur sur la vie de cette jeune fille et lorsqu'il doute de sa sincérité. Et il dit « Quand nous parlons de la gentillesse d'une femme, nous ne faisons peut-être que projeter hors de nous les plaisirs que nous éprouvons à la voir, comme les enfants quand ils disent « Mon cher petit lit, mon cher petit oreiller, mes chères petites aubépines. » Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'amour adulte et l'attachement de l'enfant à son oreiller ou à ses aubépines. Et vous savez l'importance des aubépines un peu plus loin d'encombrer. L'être aimé, Odette, Gilberte, Albertine, ne serait jamais qu'une projection, un fantasme, un objet transitionnel. Et la série est assez remarquable. Lit, oreiller, aubépine. Surtout qu'une variante du manuscrit qui est signalée dans la Pléiade nous apprend que, avant d'écrire comme les enfants quand ils disent « Mon cher petit lit, mon cher petit oreiller, mes chères petites aubépines », Proust avait écrit « En vertu du même esprit fétichiste qui fait dire aux enfants « Mon petit lit, mon petit oreiller », etc. » Proust lui-même signalait donc le côté fétichiste de cet attachement à l'oreiller ou aux aubépines, sinon celle de l'obsession de la joue. Or, vous connaissez une page parmi les plus célèbres de Combray, et c'est l'une des plus anciennes, des plus matricielles, qui est associée aux boucles, aux aubépines. C'est le jour du départ de Combray. C'est le jour du départ de Combray, la fin des vacances, le héros a disparu. Le matin du départ, comme on m'avait fait friser, le matin du départ, comme on m'avait fait friser pour être photographié, coiffé avec précaution, hein, c'est l'âge des boucles encore, coiffé avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours, presque un oreiller, cette douillette. Après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon, contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant dans mes bras les branches piquantes et, comme une princesse de tragédie à qui pèseraient ses 20 ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf, disait « Oh, mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous, vous ne m'avez jamais fait de peine, aussi je vous aimerai toujours. » Dialogue avec les aubépines auxquelles j'aurai l'occasion de revenir probablement la prochaine fois. Il en reste ce reste de dialogue qui était plus important. Bon, on cite souvent ce passage, moi-même je l'ai analysé il y a longtemps, pour le jeu avec les vers de Phèdre, de Racine. C'est une réécriture de Phèdre, de Racine, et cela appartient à des brouillons les plus anciens de la recherche, puisqu'ils datent du début de 1908. Il y avait un passage qui s'appelait « Robert et le chevreau, moment part en voyage », qui figure sur la liste de ce que Proust appelle « pages écrites » au début de 1908 dans son carnet 1, et ces pages, on les trouvait dans le... Elles ont disparu depuis, mais on les trouvait dans le « Contre Sainte-Beuve » qui avait été publié par Bernard de Fallois. Et ces pages étaient intitulées donc « Robert et le chevreau », c'était les adieux du petit frère au chevreau. « Mon petit chevreau, tu vas être malheureux sans ton petit maître, tu ne me verras plus jamais, jamais. » Donc il y a une double transposition, hein, du frère au héros et du chevreau aux aubépines. Mais vous voyez qu'on est dans ce qu'il y a de plus ancien dans la recherche. Ces lignes-ci, eh bien, c'était celles qui concluaient les pages que Proust avait publiées un an avant, Combray, dans Le Figaro, l'extrait que Gaston Calmette avait accepté de publier sous le titre « Épine blanche », voici la page, « Épine blanche, épine rose », dans Le Figaro du 21 mars 1912, le jour du printemps. Pour célébrer le printemps, Gaston Calmette, à qui Proust devait dédier Combray un an plus tard, avait accepté cette... En fait, c'est deux colonnes et demie à la première page du Figaro de ce 21 mars. Page importante qui commençait par cette description des aubépines. Hein, « C'est au mois de Marie que je vis ou remarquai pour la première fois des aubépines dans leur fraîche toilette rose, arbuste, catholique et délicieux. » Voilà la fin où vous vous retrouvez, avec un certain nombre de variantes, bien sûr, cette page désolée où le héros quitte ses aubépines. J'ose à peine citer la réaction triviale de Robert de Montesquieu à la lecture de cette page sur les aubépines dans le Figaro, le 21 mars 1912. Il écrivit à Proust le lendemain, après avoir lu cette publication. Je dois quand même citer cette page, puisque j'ai insisté dans plusieurs des cours précédents sur l'importance d'essayer de relire Combray comme les premiers lecteurs l'ont lu, en se remettant dans cette sorte de candeur, de naïveté, d'innocence, et en acceptant le choc que ce texte pouvait produire. Et donc la réaction de Montesquieu, au fond, elle m'est utile, puisque c'est un témoignage d'une première lecture de ce texte parmi les que nous considérons comme parmi les plus poétiques de Combray. Montesquieu écrit à Proust « J'ai cueilli vos jolies épines, mais vous n'avez pas parlé de l'odeur sexuelle qui vous aurait permis d'écourter le substantif tout en laissant les adjectifs subsister et insister. Mais le moi de Marie ne s'en arrangeait pas. » Montesquieu interprète donc toute cette description des aubépines dans un sens érotique. Et en particulier, cette phrase du Figaro qui figurait dans la colonne précédente, c'est ce qu'elle qu'on trouve en bas, ce que Montesquieu analyse, c'est cette phrase. « Quand je m'agenouillais avant de partir, devant l'autel, je sentis, en me relevant, s'échapper des fleurs une odeur amère et douce d'amande. » Et il suggère que le substantif « amande » eût pu être écourté, donc en amant, sans qu'il y ait eu à modifier les adjectifs « odeur amère et douce ». C'est un témoignage d'une lecture qui est violente, qui fait violence au texte. Voilà donc comment on pouvait aussi lire Proust en 1913, hein, et encore une fois, les pages les plus précieuses de Combray. Or, Proust lui répondit exactement sur le même ton, avec la même effronterie. Proust avait l'habitude de s'adapter à ses correspondants. Il écrit à Montesquieu « Quant au mélange de litanies et de foutres dont vous me parlez, l'expression la plus délicieuse que j'en connaisse est dans un morceau de piano déjà un peu ancien mais enivrant de Forêt, qui sera l'une des sources de la sonate de Swann, qui s'appelait peut-être « Romance sans parole ». Je suppose que c'est cela que chanterait un pédéraste qui violerait un enfant de cœur. » Vous voyez que Proust surenchérit dans la provocation et dans la profanation, dans l'obscénité, mais en tout cas, ça nous indique comment ils parlaient entre eux à l'occasion, mais ça nous montre un autre niveau de lecture possible de cette page. Or, bien qu'il ait été informé de l'équivoque possible de cette odeur amère et douce d'amande, Proust n'a rien changé à la phrase que Montesquieu avait signalée. Bien au contraire, il l'a surchargée. Je l'ai citée la semaine dernière, et voilà comment elle apparaît dans Combray. « Quand, au moment de quitter l'église, je m'agenouillais devant l'autel, je sentis, tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande. » La phrase est donc toujours là. « Et je remarquai alors, sur les fleurs, de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées, le goût d'une frangipane, ou sous leurs taches de rousseur, celui des joues de Mademoiselle Vinteuil. » frangipane, hein, la frangipane, c'est à la fois la pâte d'amande, hein, mais au XIXe siècle, la frangipane, c'est aussi et d'abord le parfum des gants féminins. C'est une odeur féminine, c'est une odeur d'amour. Je cite Mirbeau dans le journal d'une femme de chambre. Une odeur forte, une odeur de peau d'Espagne, c'est la peau qu'on parfume à la frangipane, une odeur de peau d'Espagne, une odeur de frangipane, Espagne rimant presque avec frangipane, de femme soignée, une odeur d'amour. Enfin, se lever de ses chiffons. Vous voyez que Proust maintient le sens, ou le double sens possible du passage, ce qui autorise sans doute à ne pas toujours lire Proust avec une intention pure. Vous voyez que ces associations de l'oreiller vont à la fois du côté de la tendresse et de l'érotisme le plus net. Une autre association importante de l'oreiller et des boucles, d'ailleurs, qui nous oriente vers cet érotisme, je la trouve dans Sodome et Gomorre 1. C'est lors de la description de la race des tentes. On n'a qu'à regarder cette chevelure bouclée sur l'oreiller blanc pour comprendre que le soir, si ce jeune homme glisse hors des doigts de ses parents, malgré eux, malgré lui, ce ne sera pas pour aller retrouver des femmes. Les boucles déposées sur l'oreiller dénoncent Sodome. L'oreiller est encore lié à Sodome, ainsi que la race est décrite. C'est en tête, c'est le début de la plus longue phrase de la recherche du temps perdu, une phrase qui fait plus de deux pages. Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime, sans situation qu'instable, comme pour le poète, la veille fêtée dans tous les salons, applaudie dans tous les théâtres de Londres, chassée le lendemain de tous les garnis, sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson et disant, comme lui, les deux sexes mourront chacun de son côté. C'est donc l'introduction du vers emblématique de Vigny, donnant le titre Sodome et Gomorre à ce livre-là. Et Proust fait ici allusion à Oscar Wilde. Sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, maudit pour ses mœurs et condamné en 1895. Alors c'est une phrase très importante de ce passage, et elle a été longuement analysée à la fois par Nathalie Mauriac et par Yuji Murakami, et donc je vais renvoyer à eux ici. On trouvait déjà dans les anciens cahiers, et ça nous montre bien comment Proust en est venu à cet oreiller, dans le plus ancien cahier pour cette description de la race des tentes, il y avait déjà une allusion à Oscar Wilde, mais la phrase était plus simple, c'était « ne pouvant trouver un lit où reposer ». Et puis, un peu plus tard, dans le cahier 49, en 1910, on trouve l'allusion au Christ et à l'oreiller. Et le lendemain, errant comme un fugitif, ne trouvant point, comme le Fils de l'homme, d'oreiller où reposer sa tête. D'oreiller où reposer sa tête. Alors, cet oreiller, c'est donc Nathalie Mauriac et Yuji Murakami qui l'ont montré, cet oreiller qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, chez saint Luc, on lit simplement « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » L'oreiller vient de Ruskin. C'est Ruskin qui avait ajouté l'oreiller précisément dans « Sésame et les lys » que Proust a traduit. Ruskin écrivait « Les renards auront-ils des tanières et les oiseaux de l'air des nids? Et dans vos cités, faudra-t-il que les pierres aient à crier contre vous quels sont les seuls oreillers où le Fils de l'homme peut reposer sa tête? The only pillows where the Son of Man can lay his head. L'oreiller vient donc de Ruskin, cet oreiller de ce passage, et dans une longue note de sa traduction de Ruskin, Proust, c'est intéressant, commentait cette glose charitable, humanitaire de Ruskin, et il l'opposait à la glose matérialiste, réaliste de Renan. J'y pense, puisqu'on a eu récemment ici un colloque sur Renan, et Proust fait une pique contre Renan qui interprétait de manière biographique cette phrase de Saint-Luc, qui voyait dans ces mots comme un signe que Jésus commençait à éprouver quelque lassitude de sa vie vagabonde, et donc cherchait un oreiller. Hein, donc Proust prend le côté de Ruskin contre le côté de Renan. Mais c'est un petit peu paradoxal, puisqu'en même temps, Proust, à la suite de Ruskin, rend matériel ce texte, le plus concret, puisqu'il y ajoute, il ajoute au verset de Saint-Luc un oreiller, là où cette litière était abstraite. Ces mots ont beaucoup marqué Proust, puisque chaque fois qu'il cite souvent cette phrase, hein, dans la suite de sa correspondance, et il la cite toujours avec l'oreiller. « Le Fils de l'homme n'a plus un oreiller où reposer sa tête. » C'est inscrit pour lui avec l'oreiller, dans une lettre à Barrès, dans une lettre à Gaston Gallimard, etc. Vous le voyez, il y a une, en somme, une surdétermination très forte pour l'association entre le nid protecteur et l'oreiller qui se substitue ici à la litière abstraite de Saint-Luc. Il y a une association très forte entre les joues, l'oreiller, le nid, la tendresse, la caresse, tous ces mots qui sont dans le poème de Sully Prudhomme que je citais il y a un moment, où en plus il y a une rime, lit, nid. Et puis, il y a cette dimension à la fois christique et pédérastique qui est introduite à la fois par Montesquieu, mais aussi par la comparaison que fait Proust entre Oscar Wilde et le Christ, qui ne trouve pas d'oreiller où reposer sa tête. L'oreiller, c'est bien un objet proustien capital. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je le disais la semaine passée, cet oreiller, il vient à la Madeleine, avant la Madeleine, mais au fond, c'est un embrayeur de souvenirs aussi essentiel à l'entrée de la recherche et d'une certaine façon plus sensuel que la Madeleine, puisqu'il a toutes ces dimensions à la fois d'innocence et d'érotisme. Et vous voyez, je crois que les premiers lecteurs pouvaient avoir des raisons de s'étonner de cette ouverture du roman qui avait de quoi choquer, surtout qu'elle s'orientait très vite, je n'en suis que, je crois, au deuxième paragraphe, vers la sensualité et vers une certaine sexualité. En effet, sitôt après l'oreiller, l'ouverture de Combray continue sur ce chemin, et en même temps que l'apparition de l'oreiller, dès l'apparition de cet oreiller. Si vous voulez bien, je saute le troisième paragraphe et je m'arrête au quatrième pour poursuivre cette sensualité du texte, paragraphe que vous connaissez bien aussi. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser. De nouveau cette joue et le baiser de l'oreiller. Mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Là encore, il me semble qu'on pourrait s'étonner que cette phrase n'ait pas été, ces quelques phrases, trois ou quatre, n'aient pas été lues plus attentivement. Bon, il me semble qu'on y retrouve la passante, hein. On y retrouve ce grand thème baudelairien de la passante, la femme inconnue. Il y en aura de multiples incarnations dans La recherche du temps perdu, hein. Notamment une fille aux roses rouges, auquel je m'étais intéressé il y a longtemps. Bien sûr, c'est une passante un peu particulière, au sens de particulier qu'on a vu la semaine passée. C'est une passante un peu particulière puisqu'elle a été aperçue non pas dans la rue, dans un train. Le train, c'est le grand lieu d'apparition de la passante au XIXe siècle, comme dans le poème de Sully Prudhomme. La scène dramatique, c'est d'être dans un train et de voir une femme sur le quai, ou le contraire. Et cette fois-ci, elle est aperçue non pas dans un train ou sur un quai, mais dans un songe et dans un rêve qui est manifestement érotique. Elle est issue du corps même du héros et vite disparue. Voici la suite, ainsi comme il arrivait quelquefois, la dernière ligne. Elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver, comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Peu de commentaires de ce paragraphe, à vrai dire, en tout cas à ma connaissance. Peu de commentaires de ce plaisir nocturne. Alors qu'on a beaucoup glosé, à la belle époque de la psychanalyse, Pierre Nora demandait l'autre jour pourquoi je n'avais pas invité de psychanalyste. On a beaucoup glosé la scène d'onanisme qui a lieu plus tard dans Combray, en haut de la maison, dans le petit cabinet sentant l'iris où le héros se réfugie lorsque sa grand-mère est persécutée par sa grand-tante, qui veut faire boire du cognac au grand-père. Et c'est à la page, dans les premières pages toujours de Combray, que ce cabinet sentant l'iris est décrit comme « refuge pour moi », sans doute parce qu'elle, cette pièce, était la seule qu'il me fut permis de fermer à clé, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude. La lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. Dans cette série, dans cette gradation, la petite pièce, là, au début de Combray, est présentée avec assez de discrétion. Simplement, son cassis sauvage est mentionné, qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entrouverte. Mais la scène qui se déroule à peu près 200 pages plus loin dans Combray, 200 pages dans le texte de 1913, moins aujourd'hui dans la Pléiade, la scène qui se déroule 200 pages plus loin dans Combray ne laisse aucun doute au lecteur sur les activités en vue desquelles le héros s'isole dans ce lieu clos. Avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle, jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchait sur moi. Bon, ce passage n'est pas signalé par aucun des premiers lecteurs, à ma connaissance. Mais je vois un indice de la réaction qui a pu être celle de certains des premiers qui ont découvert ce passage dans la traduction de Scott Moncrief en anglais en 1922, qui est déjà beaucoup plus longue en anglais, ce qui surprend, puisque l'anglais est toujours plus court que le français, par définition. « With the heroic scruples of a traveller setting forth for unknown climes, or of a desperate wretch hesitating on the verge of self-destruction, faint with emotion, I explored across the bounds of my own experience an untrodden path which I believed might lead me to my death, even until passion spent itself and left me shuddering among the sprays of flowering current which, creeping in through the window, tumbled all about my body. » Plus de traces naturelles comme celle d'un collimation. Je ne crois pas qu'il y ait de collimation dans cette traduction. Il a disparu de la traduction anglaise et lui a été substituée une expression qui, me semble-t-il, est complètement absente de la version française, « Passion spent itself and left me shuddering ». Scott Moncrief a eu un autre texte en main, sans qu'on sache si son choix résulte du malentendu ou de la pudeur. Mais voilà un témoignage de première lecture. Et je disais, bien avant ce passage indiscret, peu ont parlé du rêve érotique initial. Je citais l'autre jour le début du livre livre important de Jean-Yves Tadié sur Proust et Freud, publié récemment. On ne cesse de faire des réflexions en dormant sur ce qu'on vient de lire, une église, un quatuor, une femme née d'une fausse position de la cuisse. S'agit-il vraiment de faire des réflexions sur cette femme? Au contraire, le livre de Proust, et ce n'est quand même pas banal, offre au lecteur, dès ce quatrième paragraphe, une description précise d'un rêve érotique suivi d'un plaisir solitaire. Si vous allez consulter la traduction anglaise, vous verrez que là aussi, Scott Moncrief a gommé ce passage. Mais c'est une audace devant laquelle Proust n'a pas reculé, et s'il n'a pas reculé devant elle, c'est qu'elle devait lui paraître essentielle. Pourquoi ai-je aussitôt cité le passage qu'on trouve 200 pages plus loin dans Combré dans le texte définitif, c'est parce qu'initialement, ils étaient liés. Le rêve érotique du début, du quatrième paragraphe, dans le texte définitif, et la scène d'onanisme qui a lieu 200 pages plus loin, lors de l'évocation de la naissance du désir du côté de Roussainville. Ces deux moments apparaissaient en même temps dans le cahier 5 en 1909, à la même page que l'oreiller. Ils sont liés à l'oreiller au plus ancien des brouillons, ce qui confirme la valeur de celui-ci. Voilà l'apparition de ce passage dans le cahier qui, comme vous le voyez, est utilisé tête bêche. Je me rendormais. Parfois, pendant mon sommeil, comme Ève naquit, sortie d'une côte d'Adam, une femme naissait, s'élever d'une fausse position de ma cuisse. Née du plaisir que j'étais sur le point de prendre, d'éprouver, pardon, elle s'était formée à temps pour que je puisse croire que c'était elle qui allait me le donner. Mon corps, qui sentait dans le sien la chaleur dont il l'avait animée, voulait se rejoindre à lui. Je l'embrassais, je m'éveillais. Vous voyez que c'est une rédaction qui est déjà très proche de celle du texte définitif, même si elle est au tout début de la recherche. Et au feuillet suivant, on tourne la page et on trouve ceci. C'est une page que je vous ai déjà montrée, puisqu'en haut, on a la chemise, le drap et l'oreiller pour former le nid protecteur. Et puis, juste en dessous, ce développement sur l'onanisme. C'était aussi d'autres impressions à peine moins anciennes, mais si basses qu'un écrivain serait inexcusable de les dépeindre si l'impossibilité où on est de les ressentir une fois passée la première adolescence, vu que tout ce passage est écrit à la troisième personne, est impersonnel, Proust marque cette distance. On est de ressentir, une fois passée la première adolescence, de leur donner, quand elles se montrent dans nos rêves, ce charme d'être détaché de tout lien avec la terre, de s'y épanouir comme des fleurs d'eau, et donner en somme le parfum de cet âge, comme tout ce qui a disparu avec lui, poétique ou non, comme une chaude journée peut être évoquée aussi bien par le bourdonnement des mouches dans la chambre que par le parfum des lilas dans le parc. La Rochefoucauld a dit qu'on n'aime qu'une fois dans sa vie. Les autres amours sont moins involontaires. J'en dirai autant, c'est le bas de la page, j'en dirai autant de ce plaisir qu'à l'âge où l'on ne connaît pas encore l'amour, on cherche seulement auprès de soi-même. On ne le connaît guère qu'une fois. Bientôt, on ne se contente pas d'y associer vaguement l'idée d'une femme. On imagine que c'est elle qui vous le donne. On veut croire qu'on n'est pas seul, on est dans ses bras et on ne cherche pas ce plaisir solitaire pour lui-même. On ne se donne en somme qu'une occasion de plus d'être avec elle, comme dans les amours dont parle La Rochefoucauld, etc. Le trouble de l'amour qui la première fois fut si involontaire et si délicieux, nous voulons le multiplier en le goûtant artificiellement. Aussi, qu'est-ce qui caractérise mieux la 15e année que texte interrompu. Et vous voyez qu'il était là pour le tout début de Combray, la toute ouverture de Combray, avec cette allusion à La Rochefoucauld qui mettait quelques distances. Voici les premières ébauches pour ce plaisir. Le narrateur analyse cette première fois où l'adolescent est surpris par le plaisir et puis cette répétition artificielle ou mécanique. La recherche aurait pu commencer dès sa troisième page avec ce type d'expérience qui repoussait jusqu'à la page 200 dans le texte définitif. Il me semble là aussi nécessaire de citer la lettre surprenante mais impudique de Proust, mais pas plus après tout que l'échange avec Montesquieu, une lettre étonnante, c'est comme ça qu'elle était présentée, surprenante, elle était présentée lorsqu'elle est apparue sur le marché il y a quelques années, lettre de Proust à son grand-père, Nathé Veil, en mai 1888. Proust avait donc presque 17 ans. Belle écriture, qui n'a pas beaucoup changé, comme vous le voyez, entre le Proust de 16 ans et le Proust des manuscrits. Je viens réclamer de ta gentillesse la somme de 13 francs que je voulais demander à M. Nathan, mais que maman préfère que je te demande. Voici pourquoi. J'avais si besoin de voir une femme pour cesser mes mauvaises habitudes de masturbation que papa m'a donné 10 francs pour aller au bordel. Mais, premièrement, dans mon émotion, j'ai cassé un vase de nuit, 3 francs. Deuxièmement, dans cette même émotion, je n'ai pas pu baiser. Me voilà donc comme devant, attendant à chaque heure davantage, 10 francs pour me vider, et en plus, c'est 3 francs du vase. Mais je n'ai pas osé redemander si tôt de l'argent à papa, et j'ai, malheureusement, je n'ai pas de photographie de la deuxième page, ça c'est dans le catalogue, on ne donnait que la première, et j'ai espéré que tu voudrais bien venir à mon secours dans cette circonstance qui, tu le sais, est non seulement exceptionnelle, mais unique. Il n'arrive pas deux fois dans la vie d'être trop troublé pour pouvoir baiser. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur la liberté qui régnait entre le petit-fils et le grand-père, et aussi sur la manière dont on parlait de la sexualité dans une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les prix. Je vous avais donné, lors d'un premier cours, la valeur du franc du début du siècle. Un franc de 1888, c'est un peu moins de 4 euros d'aujourd'hui. Une courte digression, un souvenir personnel. Cette lettre, elle n'est pas connue, disais-je, depuis tellement longtemps. Elle est connue depuis 1992. parmi un lot de lettres de Proust à ses grands-parents qui appartenaient à la collection de Jacques Guérin. Je vous ai déjà parlé de Jacques Guérin, le propriétaire des épreuves qui sont aujourd'hui à Genève. Et ce lot des lettres de Proust à ses grands-parents, hein, très intéressantes dont celle-ci, est passé en vente le 20 mai 1992. C'était la 7e vente de cette extraordinaire collection de Jacques Guérin. Et je me souviens d'avoir vu cette lettre avant la vente, dans l'exposition qui a précédé, en compagnie de Philippe Kolb. C'est pour ça que je le mentionne, Philippe Kolb, l'éditeur, le grand éditeur de la correspondance de Proust, que j'ai retrouvé là par hasard, et nous avons déchiffré ensemble cette lettre. C'était son dernier voyage à Paris, puisqu'il est mort 6 mois plus tard, en 1992. C'est donc la dernière fois que je l'ai vu devant cette lettre qui a été vendue pour 130 000 francs, 20 000 euros. Son prix aujourd'hui, me semble-t-il, serait au moins 10 fois plus. Je ne sais pas qui l'a acheté. En tout cas, dans le cahier 5 que je montrais juste auparavant, c'est parmi les fragments pour le réveil que s'interpole cette réflexion sur le plaisir solitaire. Et puis Proust y revient à propos de ce nid protecteur, justement. Tout ça est lié au nid protecteur. De ces sensations qui revenaient alors, quelquefois dans mon sommeil, je n'oserais pas parler si elle n'était apparue presque poétique. Et suit une longue description qui dure plusieurs pages de ce cabinet qui sent alors le lilas et non encore le cassis, jusqu'à un passage qui a donc été souvent glosé il y a une vingtaine d'années. À tout moment, je croyais que j'allais mourir. Enfin, s'éleva un jet d'opale par élan successif, comme au moment où il s'élance le jet d'eau de Saint-Cloud. Le jet d'eau de Saint-Cloud, peint par Hubert Robert, hein, qui reviendra souvent dans la recherche du temps perdu. Puis, une addition en face, et voici cette addition. Mais une odeur âcre, une odeur de sève s'y mêlait, donc à l'odeur du lilas, avant le cassis, comme si j'eusse cassé la branche. J'avais seulement laissé sur la feuille une trace argentée et naturelle, comme fait le fil de la Vierge ou le colimaçon. Le fil de la Vierge ou le colimaçon. Mais sur cette branche, il m'apparaissait comme le fruit défendu sur l'arbre du mal. Et comme les peuples qui donnent à leur divinité des formes inorganisées, ce fut sous l'apparence de ce fil d'argent, qu'on pouvait tendre presque indéfiniment sans le faire finir, et que je venais de tirer de moi-même en allant tout au rebours de ma vie naturelle que je me représentais dès lors, et pour quelque temps, le diable. Se représenter le diable sous la forme du fil de la Vierge, ce qui est écrit dans ce passage. C'est une sorte de comble qui résume la profanation qui est inséparable du plaisir. Les fils de la Vierge, qu'on appelle aussi fils de Notre-Dame, hein, ou encore cheveux d'ange, ce sont ces flocons, ces filaments blancs, ces fils à soie qui sont produits par les araignées à l'automne, par les araignées qui vivent en particulier sur les feuilles des tilleuls. Et c'est un moyen de dispersion des petits. Bien sûr, ces fils de la Vierge sont évoqués par Michelet dans l'insecte. La formation de leur belle toile d'automne, si poétique, qu'on appelle les fils de la Vierge, à propos de l'araignée. Les fils de la Vierge, eh bien, encore une fois, c'est un objet poétique, un cliché poétique du XIXe siècle, le fil de la Vierge. Je prends cette définition chez un naturaliste. C'est, suivant les antiques légendes, les fils provenant de la quenouille de la mère de Jésus enfant. Pendant qu'il sommeille, la Vierge assise les fils de ses doigts menus au bout de son fuseau et les laisse s'éparpiller dans l'air pour rendre plus chaud l'hiver, le nid des oiselets. On retrouve donc les oiseaux, on retrouve le nid. Imaginez plus de confort que dans un nid rembourré de fils de la Vierge. Le fil de la Vierge, c'est un cliché poétique. Par excellence, romantique, symboliste, il appartient à l'attirail littéraire du XIXe siècle. Il y a des fils de la Vierge chez Balzac, chez Flaubert, chez Georges Sand, chez Baudelaire, chez les Goncourt, chez Mallarmé, chez Peggy, chez Zola, et même chez Gaston Leroux, qui les appelle ces fils que de chères petites bêtes du bon Dieu tissent entre les arbres. Et après Proust, cela continue. Albert Béguin, dans L'âme romantique et le rêve, retrace ces fils de la Vierge à Jean-Paul. Les fils de la Vierge tissent dans l'air des voiles immatérielles. Vous voyez qu'associant le fil de la Vierge à ce dépôt du colimaçon, Proust mêle de manière scandaleuse le poétique et le trivial, le pur et l'impur. Comme il disait à Montesquieu, mélange de litanie et de foutre. Ces fils de la Vierge sont donc effacés, puisqu'on n'a plus que le colimaçon d'encombré, mais ils apparaissent un peu plus loin, justement à propos des aubépines. Ils reviennent d'encombré. C'est dans la description des aubépines du mois de mai. Plus haut s'ouvraient leurs corolles, ça et là, avec une grâce insouciante, retenant si négligemment comme un dernier et vaporeux atour le bouquet d'étamines fines comme des fils de la Vierge qui les embrumaient tout entière, qu'en essayant de mimer au fond de moi le geste de leur efflorescence, je l'imaginais comme si ça avait été le mouvement de tête étourdi et rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées d'une blanche fille distraite et vive. Voilà les fils de la Vierge qui reviennent, mais malheureusement, je dois m'arrêter d'en parler. Simplement, je vous dirai que dans ces passages des brouillons, ils sont précisément associés à l'odeur d'amande des aubépines. Ils sont associés de manière constante à ces odeurs. Eh bien, cela me fait conclure en disant que peut-être qu'après tout, Montesquieu n'était pas un si mauvais critique de ces pages qui, sous l'odeur d'amande, avait retrouvé les fils de la Vierge. Merci.